Oui, Chloé.
Alors moi j'ai une petite question. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les motivations pour les pères de se lever plus tôt le matin.
Plutôt.
Se lever tôt le matin, au lieu de se tourner comme des crêpes le matin dans son lit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui nous donne envie de se lever le matin.
Qu'est-ce que nous enlève, de nous donner l'envie.
Voilà. De perdre son temps, il fait des armes.
Ok. Donc la question de Shlomi sur un sujet extrêmement ardu, le lever du matin. Je vais pas il y a déjà un cours sur internet qui s'appelle le lever du matin, d'accord, ça existe. Bon, il est clair que le matin, il est clair que nous avons en deux, nous sommes un peu schizophréniques. Parce qu'on a en nous une neshama qui veut faire la volonté divine et le corps qui veut faire le contraire. Et un des moments les plus où on voit cette, en bon français, dichotomie, d'accord, cette antinomie, cette schizophrénie, c'est le matin, quand le réveil sonne, tu as une voix qui te dit clairement, lève-toi, puis tu as une voix qui te dit très clairement, pas maintenant. Encore un peu. Et des fois, on veut se lever et on pèse des tonnes. Des tonnes. Bon, il est certain que, au niveau de la technique, l'habitude aide. On a une habitude de se lever à certaines heures. Alors, et au niveau physique, j'imagine que ça a son impact, que c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile. Des fois, c'est carrément impossible. Tu sens vraiment 10 000 tonnes sur toi. Et au niveau mystique, on va dire, j'en ai parlé dernièrement dans un cours, c'est le Gondevillain qui dit comme ça. Il dit que lorsqu'on fait une mitzvah ou une avera, chas shalom, on attire sur soi un rouar, un souffle, qui nous pousse à refaire la même chose. L'appétit vient en mangeant, disent nos compatriotes français. Chazal disent, Ohev kesef, lo isba kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Celui qui aime les filles, pour parler de choses françaises, il ne peut pas faire. L'appétit vient en mangeant, c'est clair. Idem en Torah. Celui qui aime la Torah, plus il en a, plus il en veut. À en arriver à des situations dingues. Dingues. Ou comme j'avais dit dans ce cours-là, que pour une seconde que tu perds, tu as l'impression que tu perds énormément. C'est vrai qu'on perd énormément. On perd de l'infini. La Torah est infinie. Dieu est infini. La connaissance de Torah, c'est la connaissance de Dieu. La plus grande mitzvah de toutes les mitzvot. Combien ça vaut un milliardème, deux milliardèmes, deux milliardèmes d'infini? Infini. Une seconde, c'est infini de perdu. On ne se rend pas compte, mais quand on se rend compte, comment? Par le fait qu'on est très investi dans l'étude de Torah, chaque seconde nous fait très mal. Donc au niveau plus mystique, quand quelqu'un prend l'habitude de ne pas se lever le matin, ou difficilement, alors il attire sur lui un souffle puissant qui le pousse à rester dans le lit. J'ai dit ce matin un éveil à l'Yeshiva qui avait des problèmes de lever. Il est arrivé maintenant avec des bonnes résolutions à l'Yeshiva. Bon, la première semaine, impeccable, incroyable, je dirais même. D'accord? Levé à l'heure. Et hier, il a déraillé, déjà un peu plus tard. Ce matin, il a redéraillé. Je lui ai dit, attention, fais attention parce que Chazal disait un exemple pareil. Ils disent, un âne, à l'époque, il n'y avait pas de camion, il y avait des ânes. Et on mettait sur eux des poids faramineux. 500 kilos, une tonne, je ne sais pas, enfin, un âne peut supporter beaucoup. Et des fois, le pauvre âne, il ne faut pas dire ça à la SPA, soit qu'il tombait par terre, écrasé par le poids. Chazal ont dit, avant qu'il s'écrase, une personne peut le retenir. On l'aide un peu comme ça, on le remet bien, on enlève un peu du poids et ça lui tient. Une fois qu'il s'est écrasé par terre, quatre personnes n'arrivent pas à le remettre debout. On a le poids, ok, mais il faut tout débarrasser, tout décharger. Rester en vitesse de croisière, c'est possible. Il faut un effort. Chaque avion, il se croise, le moteur, il fonctionne. Mais une fois qu'on est, on est descendu, remonter, il faut mettre les gaz. C'est très difficile. Même c'est le même principe. Et on dit les paroles de Torah. Paroles de Torah, ce n'est pas seulement connaître la Torah, c'est aussi la vivre. C'est comme des verres de cristal. Ça coûte très cher. Et ça se casse facilement. Il faut investir et c'est précieux. C'est facile de tomber et c'est difficile de remonter. Mais une fois qu'on a une vitesse de croisière, c'est relativement, en tout cas beaucoup plus facile, de faire attention. Faire attention. Donc on gagne. Il faut se dire simplement le matin, quand on va rester roulé un peu plus, qu'en fin de compte, en souffrance du corps, on y perd. Parce qu'après, pour arriver à réintégrer notre rythme, d'accord, il faut des efforts énormes, beaucoup de souffrance. Maintenant, il est clair que plus on dort le matin, plus la journée, on est flagada, flou, pas les pieds dans ses chaussures, pas dans son assiette. Alors, vous me direz, non, moi je me lève à 8h, tout va très bien, ou à 10h aussi, ouais, mais tu ne te rends pas compte que tu pourrais être dans ton impact. Essaye, quelqu'un qui se lève à 5h du matin, alors la première fois il est flagada, parce qu'il est complètement sonné de l'effort, du manque de sommeil ou de l'effort, mais après, comme il s'habitue, eh ben, il y a une fraîcheur extraordinaire. J'étais en Guadeloupe il y a quelques temps, j'ai rencontré ben, un monsieur très 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 riche, d'accord, et les deux nous étions d'accord de dire que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il lui a dit, c'est les meilleures heures de travail. Il va à son bureau à 6h du matin, il est tranquille. De 6 à 10, c'est les heures où vraiment on travaille très bien. C'est comme ça. Au niveau maintenant mystique, quand on dort, on goûte au goût de la mort. Ça passe, c'est un goût mystique, c'est pas un goût... physique. L'impact, on peut le sentir au niveau physique. On goûte à la mort. C'est pour ça que le matin, quand on se lève, il faut faire une klatet d'aïm. Une des raisons, c'est que durant le sommeil, donc, il y a ruach ra, un souffle d'impureté qui vient en nous. Impureté, c'est la mort. La pureté, c'est la mort. Deux choses pour dire la même chose. Deux termes pour dire la même chose. Maintenant, plus longtemps tu laisses sur toi le souffle d'impureté, ben plus tu as un pied dedans, c'est mélangé dans ta tête. Il y a du bien, il y a du pur et de l'impur. Donc le matin, plus tôt tu te lèves, moins tu laisses l'impureté te pénétrer. Au niveau strict de la halakha, il faut faire Kriyat Shema. Mitzvat assez de la Torah. Enfin, pas beaucoup de mitzvot assez de la Torah par jour. T'as tzitzit s'il est de laine, t'as tefillin s'il est kasher. La prière, c'est des rabbanan, c'est pas de oraita. De oraita, il faut dire juste une prière, Dieu aide-moi, ça suffit. T'as quoi encore? Étude de Torah. Voilà, c'est tout, tzedaka, tzedaka. 4 mitzvot. Birkat Amazon, si t'es rassasié, tu le fais bien comme il faut. 5. T'as une mitzvah très importante. Et hélas, chez beaucoup de gens, en tout cas pendant les vacances, c'est Zichron Alevracha, cette mitzvah. Kriyat Shema, le Shachrit, lire le Shema Israël le matin, de la Torah. Shabbat, page 119b, il est marqué que le temple n'a été détruit que parce que les gens arrêtaient de dire Kriyat Shema. Ils disaient, mais trop tard. Aujourd'hui, c'est en Israël, c'est 8h moins 10. Si possible, il faut dire le Kriyat Shema avec qualité de filine. C'est marqué que celui qui dit Kriyat Shema sans filine, c'est comme s'il fait un faux témoignage. Parce qu'il dit, dans le Kriyat Shema, c'est marqué, vous porterez ces paroles en totafot entre vos yeux et en signe sur vos mains, c'est la message de filine, et tu ne le fais pas. En cas où le temps passe, tu n'arriveras pas à 8h moins 10, mieux vaut le faire sans filine. Tu dis. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a deux temps pour le Kriyat Shema. Pour nous, Saradim, c'est à 8h moins 10, le temps du Magad Abraham. Le Graal, le Ganouvillain, il dit non, c'est une heure plus tard. Est-ce qu'on compte la journée? Il faut dire le Kriyat Shema dans les trois premières heures de la journée. Dans les trois premières heures, on les compte depuis où? Le Magan Avraham est comme ça, et l'Alaha pour les Sfaradim, depuis le lever du jour. C'est quoi le lever du jour? C'est lorsqu'il fait noir, 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 il commence à faire à l'est, à l'horizon, il commence à faire bleu. Et après bleu clair, et après gris. Le jour commence à poindre, mais pas le soleil. Le soleil, c'est environ 1h12 à 1h30 après. Il y en a qui disent, non, on compte la journée depuis le net, depuis le lever du soleil. Ce qui fait une différence d'environ 1 heure si on compte la journée entière. On prend la journée entière, on la divise en 12 parties. Donc il y a une différence d'environ 1 heure entre le premier temps et le deuxième temps. Pour les Sfaradim, il faut faire le premier temps. Donc si tu sens que le temps va passer, le premier, on va dire 8h moins 10 aujourd'hui, et tu es à 8h moins 12, tu n'as pas le temps de mettre les tefilines. Alors tu fais Kriyat Shema. Tu poses une condition, tu dis, si dans la vérité maintenant dans le ciel, le vrai temps de Kriyat Shema, c'est comme le deuxième temps, donc jusqu'à 9h moins 10 pour le faire, alors que le Kriyat Shema que je fasse maintenant soit considéré comme une lecture de Torah. Et quand je mettrai quand je fais Kriyat Shema avec les tefilines, avant 9h moins 10, que cette Kriyat Shema soit considérée comme la Mitzvah d'Assé d'Oraïta de la Mitzvah de la Torah de Kriyat Shema. Mais si dans le ciel, le vrai temps, c'est maintenant, alors que ce que je dis maintenant soit considéré comme le vrai temps de Kriyat Shema. Donc on peut poser une condition comme ça, c'est valable. Mais le Talmud dit, le temple n'a été détruit que à cause de cela. Le temple n'a été détruit que à cause de cela. Vous entendez? C'est terrible. Quelqu'un il est malade, ici la yeshiva, dans son lit, ben, tu te lèves au moins, tu vas écrire, tu te rendors, tu as fait la médecin, ça va, c'est bon. De Horaïta la Torah, c'est le premier verset, premier et deuxième verset. Oui.
Pourquoi la symbolique du Kriyat Shema avant de dormir?
Symbolique du Kriyat Shema avant de dormir, on est hors sujet. Il y a quatre, mais je vous la parenthèse, je la ferme dans 2 minutes. Il y a 4 Kriyat Shema qu'on fait par jour. La plus importante, celle de Shachrit, dont je suis en train de parler maintenant. Pour que le tikkun, la réparation, l'action mystique de ce Kriyat Shema puisse avoir lieu, il est nécessaire de dire un autre Kriyat Shema avant, celui qu'on lit dans les Korbanot. Celui qui n'a pas le temps, le matin arrive en retard, au moins qu'il fasse Shema Israël, le premier qui pense à un Kriyat Shema d'Erabanan, et après il fait le Kriyat Shema de la Torah. On va faire 2 fois Shema Israël le matin. Parce que si on fait un seul, celui de la Torah, on n'a pas la puissance aujourd'hui, avec nos petites neshamot, nos petits niveaux d'âme, de faire le tikkun nécessaire. Un temps, on pouvait. Un temps a été donné, c'est marqué une fois, c'est pas marqué 2 fois. Mais Rabbi Noir, la Kabbalah te dit, aujourd'hui, c'est plus valable, il faut 2 fois. Un, mais un étage, le deuxième étage. Non, avec le paragraphe qui accompagne, le premier. Mais si tu n'as pas le temps, tu dis Shema Israël, tu attends un tout petit peu, il faut attendre un laps de temps, on va dire, une demi-minute, et tu relis Kriyat Shema aussi. Shema Israël, Shema Kodesh Shema Echad, Baruch Shem Kodesh Shema Moed, tu attends 30 secondes, tu refais mal. Le premier, Derabanan, deuxième, tu penses, Deoraita, de la Torah. Ça dans l'ordre, donc, de puissance. Troisième, celui de Kriyat Shema de Arvit. Regardez à quel point le Kriyat Shema de Shachrit est important, que celui des Korbanot, il est Derabanan. Mais il est plus important que celui de Arvit qui est de la Torah. Pourquoi? Parce que sans celui de Rabbanan, celui de la Torah, le premier, il ne marche pas. Donc bien que le deuxième ne que des Rabbanan, ça doit être moins important que de Horaïta, que de la Torah, néanmoins il passe avant le troisième qui est celui de Arvit, du soir, qui est de la Torah. Pourquoi? Parce que sans le deuxième, il n'y aura pas le premier non plus. Vous me suivez ou c'est trop compliqué? Dans l'ordre ici d'importance. Sans le deuxième, qui est le premier dans l'ordre chronologique, il n'y aura pas le premier en ordre d'importance, qui est le deuxième dans l'ordre chronologique. Le quatrième, c'est ta question, Kriyat Shema Shalamita. Kriyat Shema qu'on doit faire avant d'aller dormir. Il doit se faire impérativement avant minuit juif. Après, l'action qu'il est censé faire n'a plus lieu. Et il a une action, surtout, de destruction des démons, des forces négatives qu'on aurait pu créer, surtout avec des pollutions nocturnes ou non nocturnes. Après minuit, on n'a fait plus. On a raté. Donc, tu as un mariage. Moi, très ça m'arrive, je vais à un cours maintenant hors de la ville, je suis en voiture, sur autoroute, je maille ça, je me dis, l'heure arrive, terminé, il faut le faire. Alors, avant le Kriyat Shema, il y a une bracha. Baouch Hamapil. Il y en a qui disent de dire avec le nom de Dieu, Alors, Rabbi Yosef, il y en a qui disent sans le nom de Dieu, le Ben Israël. Chaque Afrin, ça, comme sa coutume. Je reviens à propos du lever du matin, qui est le sujet essentiel. Pardon ? Chacun fait sa coutume. Tu prends un rave et tu fais comme tu veux. Hein ?
Après-minuit
juif, ça, on le fera, mais uniquement dans l'optique de s'endormir en parlant de Torah. Mais le vrai tikkun important, regardez, je vous le donne le truc maintenant, pour ne pas goûter au goût de la mort. Vous pouvez le faire aujourd'hui, vous êtes... moi, je vais relever tôt au lit, je suis vieux, d'accord ? Vous êtes jeune, plein d'énergie, et vous allez tard, bêtement tôt au lit, alors allez maintenant intelligemment tôt au lit. Pour ne pas goûter au goût de la mort... D'accord. Et le Ben Ishraï, la Kabbalah dit, c'est un degré fantastique de limpidité après, d'impact de ton âme. Il y a un truc qui est très simple à faire. Avant minuit juif, tu fais tout le seder, tout dans le sidour, tout ce qui est Kriyat Shema Shalamita. Donc t'as d'abord, tu reçois sur toi la malchut, tout ce qui se passe, c'est d'abord tu reçois sur toi le royaume de Dieu, après tu pardonnes tous les gens qui t'ont fait du mal, après tu fais la bracha de Amapil, après tu fais Kriyat Shema, après il y a des versets de protection, Tu fais Alain Bechorach, etc. Fais pas le vidouille. Au moment de faire le vidouille aussi, tu ne le fais pas là. Dans le cas que je vais expliquer maintenant. Ça, tu fais juste avant minuit. Plus tôt c'est avant minuit, mieux c'est. D'accord ? Tu peux faire une demi-heure avant minuit, tu peux faire 20 minutes avant minuit. Le mieux, c'est 10 minutes avant minuit. Comme ça, tu arrives, tu as fini juste à minuit. Minuit juif. Dès que minuit juif est passé, c'est bien pour la Rabbinson d'attendre encore 7 minutes pour être certain. 7 minutes. Tu fais Birkot HaShachar. Baruch atah Hashem lekol melech haolam, halonten haservi v'nei l'aprin ben yom ben laila. Baruch atah Hashem lekol melech haolam, pokeh hivrim. Baruch atah Hashem, matir asurim. Les birkot, les brachot du matin. Tu fais tout, sauf Asher Yatzar, si tu n'as pas été aux toilettes. Sauf Netat Yadayim. Sauf Birkat HaTorah. Pardon ? Modi Ani, pas besoin parce que tu n'as pas dormi. Tu commences, comme je dis, tu commences, si tu vas au toilette, tu fais Asher Yatzar, et après tu fais Elokan et Shomach dans ta tabi. Sinon, tu laisses pour plus tard quand tu es aux toilettes. Tu fais Alantena Servi, Poker Ivri, Matira Surim, etc., jusqu'à Gomel Hasim Tovim. Bor Tachem Gomel Hasim Tovim, l'amour Israël. Elokan et Shomach, que si tu as fait Asher Yatzar, parce que c'est bien de la coller à Asher Yatzar. Ou tu peux la coller à une autre bracha. Baruch atah Hashem lekol melech haolam, halonten haservi v'nei l'aprin ben yom ben laila. Elokai neshama, parce que Elokai, vu qu'on ne commence pas par Baruch, on va la coller à une bracha qui a Baruch avant. C'est tout. Après quoi tu fais tikkun chatzot? 10 minutes. 10 minutes.
Comme
Tehilim, on a joué ouvert la tchouva du Ben Israël qui dit même comme Tehilim, ça va. D'accord? Hein? Si tu parles, où est ton problème? Ouais, tu parles tant que tu veux. Tu fais tikkun chatzot, ça te prend tout ça, ça te prend avec Kriyat Shema, avec tikkun chatzot, ça te prend à tout casser, vraiment, le pit lent, 20 minutes. T'es rapide, c'est un quart d'heure. Pardon ? Là, tu fais le vidouille. Avant tikkun chatzot, tu fais le vidouille. Tu n'as pas fait avant, tu fais maintenant. Ouais. Dans tikkun chatzot, ça commence par vidouille. Et après, tu étudies une petite heure de la Torah. Ben, aujourd'hui, c'est à 11h30, 11h20 environ. Donc ça fait aller, t'as fini à minuit et quart, minuit 20, t'as fait minuit 20, t'as fini. T'as fait ça, le lendemain matin quand tu te lèves, d'accord, tu fais pas un tiltadaim, tu fais pas la bracha, parce que c'est comme si t'as dormi en plein jour. T'as pas goûté le souffle d'impureté de la mort, ne t'as pas touché. T'es extra pur. De plus, t'as fait tikkun chatzot. De plus, t'as étudié la nuit, que c'est marqué le Zohar, il parle, celui qui étudie la nuit, c'est... Essaye la nuit, vous allez voir quelle... Mais attention, attention messieurs, si c'est faire ça, à cause de ça, après dormir le jour, pendant les darim, alors c'est un coup du yetzerara. Il y a des gens qui sont fatigués toute la journée. Le soir, ils n'en peuvent plus. Et tout de coup, vers 11h30, c'est-à-dire au minuit juif, tout de coup, paf, les auréoles cervicales, d'accord, tout, ting, il y a tout qui s'ouvre. Et puis les gens vont se dormir, tu es tout seul au Beit Midrash comme ça, tu sens à ta gauche Baba Salé, à ta droite Hafetz Chaim, sur ta tête le bon Dieu. Vraiment, tu sens une kudusha, c'est vrai, et tu la sens. C'est pas des histoires. C'est un sale coup du Yetzer Hara. Qui dit, vas-y maintenant, éclate-toi, comme ça demain. Tintin, Nikat Shema de Horaïta. Tout ça, je t'ai bien eu. D'accord ? Tout ce qu'on fait, on va dire, en plus du strict nécessaire, c'est-à-dire pas ton petit kudusha, c'est en plus, c'est pas obligatoire. Tout ce qu'on fait dans la vie, en plus, il faut savoir, si on veut être certain que c'est fait dans la sainteté, et pas, c'est pas un coup de Yetzer Hara, c'est quand tu fais ta journée normale et tu rajoutes. Et quand tu rajoutes le non nécessaire, et après tu enlèves à cause de cela du nécessaire, ça veut dire c'est un coup du etc. Le etc. il est prêt à te pousser maintenant à étudier, mais à avoir tout à coup une gmara que personne n'a compris, du coup, tac, elle devient limpide, il te donnera tout pour que demain matin tu ne te lèves pas. Ou tu iras le kratchma. Parce qu'il a gagné, il a gagné au change. Tikkun ratzot, c'est qu'un truc bien des rabbins après le Zohar. Kratchma de Horaïta. Le temps va être détruit à cause de ça. Alors il y gagne. Allez, on rajoute encore 3 ans de temps non détruit. Une petite parenthèse. La page 119 que je viens de citer maintenant, je sais plus si 118 ou 119, page B de traité Shabbat, donne une liste de choses, les raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Et chacun des rabbins dit là-bas, il dit, le temple n'a été détruit que à cause de ça. Tu me dis une seule raison, ça va, mais il y en a 10. Alors décide, c'est laquelle des 10. C'est une bonne question. Le temple a été détruit que parce qu'il n'y a plus de gens sur qui on pouvait compter, des gens droits, il n'y en a plus. Le temple a été détruit que parce que les gens arrêtaient de faire kratchma. Le temple a été détruit que parce qu'on avait arrêté les écoles de Talmud Torah. Le temple a été détruit que, il y en a un tas de que. Alors ça, c'est à cause de que quoi? C'est lequel que qui a raison? Le Rahim HaKadosh, il donne une réponse géniale. Il dit, tous sont vrais. Mais si un de toute la liste n'était pas arrivé, ça aurait été suffisant pour que le temple continue à exister. Donc en fait, c'est chaque fois que à cause de celui-là. Vous avez suivi ou pas? Très bien, c'est un beau tirotz. Maintenant, quand tu te lèves tôt et tu fais ta prière comme il faut, qu'est-ce que tu gagnes? Les bouquins de mystiques juifs, ils disent, Kabbalah, ils disent, ta nuit, la qualité de ta nuit, ta qualité spirituelle de ta nuit, elle dépend de la fila de Harvit. La qualité de ta journée, elle dépend de Shachrit. Et ça, vérifier, c'est clair. Le type qui se lève tôt. Si possible, il va au mikvé ici avant. Non, je vous dis maintenant, là, si possible. Là. Mais non, tu te lèves tôt, tu viens. Tu commences, fais tes birkot hashachar tranquillement. Avec ton café, avec ta cigarette, ce que tu veux, mais bien, tu le fais. Après, tu mets talit, tu mets de fil, en pensant ce qu'il faut penser. Tu commences korbanot. Tu fais ta prière avec kavana. C'est clair, messieurs. Je garantis, tu n'es pas le même après la prière qu'avant la prière. Il y a un site israélien, ils ont montré les images. Un type a mis au point un appareil qui prend 14 paramètres de la personne et on voit son aura. Et on peut voir la qualité d'aura. Si le type il est très enfoncé dans la matière, c'est une certaine couleur, je crois rouge, et plus ça se rapproche de la pureté, ça passe au vert, au jaune et au blanc. D'accord? Le type qui fait ça, c'est un type qui était non-croyant. Et un Batouva, il y a 8 ans, il est venu le voir, il dit, je veux essayer avec une filine. Il ne met pas une filine. Bon, alors il est violet, d'accord? Une filine, tout blanc. Et tu lui dis, mais bien sûr, c'est autosuggestion. Pour toi, tu as l'impression maintenant que tu mets un truc, donc ça te fait un courant spirituel. Il dit, tiens, essaye-toi. Le type, c'est un non-croyant, d'accord? Le type de la machine. Il s'est vu tout blanc. Depuis ce jour-là, il a les cheveux longs. Hein. Il a encore aujourd'hui les cheveux longs, le jeans troué, d'accord? Mais il met tous les jours les tefillines. Et il dit, cette lumière, elle reste après la prière. Combien de temps elle reste? Alors ça dépend, il dit, ça dépend des bêtises que la personne parle. Par les bêtises, ça enlève, ça parle. La lumière, elle part. Mais cette lumière, vous pouvez la sentir. Celui qui fait ce qu'il se lève tôt. Si possible, il va au mikvé, pas obligatoire. Il fait sa prière comme il faut. Il fait sa prière avec Kavan. Il fait sa prière bien comme il faut. Il a tout ça. Après, il étudie un peu avec les tefillines. En parenthèse, c'est marqué dans le Ben Ishraï, celui qui n'étudie pas avec les tefillines après la prière ne peut pas recevoir Nefesh Ruach Neshama. Il lui manquera des parties spirituelles. Donc, étudiez un minimum. Ici, on fait une halakha, normalement, après la prière. Il y en a qui sont tellement précis dans le tefillines. Garde-les encore un peu. Garde les tefillines. Garde les tefillines. Encore un peu. T'étudies un petit machin de n'importe quoi.
La tefillah, c'est pas l'étude.
Non. Étude, c'est étude.
Non, mais il y a un peu d'études.
Non. C'est pas d'étude.
La télé, là où se passe, pas l'étude.
C'est pas d'étude.
Il y a la télé,
monsieur. Télé, ça peut être considéré. Encore une parenthèse, d'accord? On a plusieurs parties d'âme. Alors, comme je dis, si tu sens l'étude, tu ne peux pas recevoir Nefesh Ruach Neshama. Mais on a plusieurs parties. Comme il faut satisfaire au niveau de notre âme, il faut qu'on satisfasse toutes les parties de notre âme. C'est comme au niveau du corps. Le corps, il a besoin de nourriture différente. Il a besoin d'oxygène, il a besoin d'eau, il a besoin de liquide, de lipides, de protides, de glucides, d'accord, de carbone, de carbonate, qu'est-ce que j'en sais, de un tas de choses. Idem notre neshama, elle a besoin de différentes parties de Torah. Il faut du chumash. Chumash, c'est asiya, c'est le monde nefesh, asiya. Il faut de la Mishnah, c'est ruach. Il faut de la Gemara, neshama. Il faut des sodot haTorah, du Zohar. Chaya, Yachida, c'est toutes les parties d'âme. Rabbeinu Ari a mis en place, après ce Rav Chida qui a encore arrangé cela, Chok l'Israël, la loi d'Israël. La Rabbeinu Sion écrit que c'est bien que tout le monde le fasse. Même les grands Talmid Chachamim. Pourquoi? Parce que tous les jours, en quelques minutes, tu remplis ton âme d'un peu de Chumash, un peu de Ruach, un peu de Neshama, un peu de Chaya, un peu de Yachida. Nefesh Ruach, ça correspond à tes cinq parties d'âme. Et c'est pas n'importe quel verset, c'est des versets qui correspondent à des. Prenez le Chok l'Israël, d'accord, le Chok l'Israël, c'est très simple. Comment ça fonctionne? Je vous dis maintenant, je vous explique un peu, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez peine de le faire? Moi, tous les matins, je viens, je le fais ici. Vous remarquez, je trouve un gros bouquin, d'accord, ben, je le fais. Comme ça, j'ai ma dose quotidienne. Le dimanche, on va lire 6 versets. Le lundi, on va lire 4 versets. Le mardi, 5 versets de la paracha. On lit chaque verset 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Le mercredi, on lit 6 versets. Et le jeudi, 5 versets. En tout, combien ça fait? 26 versets. Les 26 premiers versets de la paracha, on les lit. 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Maintenant, d'où proviennent ces 26 versets? C'est un peu compliqué maintenant, concentrez-vous bien. Le nom de Dieu peut s'écrire de différentes façons. Le nom de Dieu ineffable, Yud, et puis, je dis et puis, il faut dire Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey, peut s'écrire de différentes façons. La lettre Hey, je peux l'écrire de 3 façons. Hey, c'est un Hey Yud. Chaque lettre en hébreu, elle a un nom. Aleph, c'est A-E. En français, j'écris A-A-L-E-F. D'accord? Dalet, c'est D-A-L-E-T. En français, on dit A-B-C-D. T'as pas de nom. Mais en hébreu, les lettres, elles ont un nom. La lettre Hey, je peux l'écrire en français H-E-Y. Je peux l'écrire H-E accent aigu. Ou je peux l'écrire H-E accent aigu H. Ça veut dire en hébreu Hey, Hey Yud, Hey, Hey Hey, ou Hey, Hey Aleph. Le nom de Dieu sera différent. On peut écrire le nom de Dieu en écrivant les lettres. Par exemple, Yod, on écrit en français Y-O-D, Yod, en hébreu, Yud-Vav-Daled. Il y a un nom qu'on appelle le nom Ben. Peu importe pourquoi on l'appelle ainsi, c'est une valeur numérique 52 en tout. J'écris comme ça, Yud-Vav-Daled, c'est Yud. Après, il faut dire le mot après et puis en chaque fois qu'on dit. Vous suivez là ou c'est trop compliqué? Hey, Hey, Hey. Après Vav, 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 après Hey, Hey, Hey. Ça, c'est un des noms de Dieu. Alors, numéro 52. C'est le plus bas des 4 noms de Dieu. Tu prends. C'est marqué ce que je vous dis, c'est marqué dans le Chokhmah d'Israël. Tu prends le premier jour, tu arrives dimanche. Tu dis, je vais lire maintenant, on va lire quoi? On va lire des versets, un nombre de versets qui sera déterminé par la lettre qu'on appelle du milou, du remplissage. Yud, s'écrit Y-O-D. En hébreu, Yud Vav Dalet. La lettre qui apparente, c'est le Y, le Yud. Le remplissage qu'on ne voit pas, c'est le OD, Vav Dalet. Vous me suivez? On va lire les versets en fonction des lettres du remplissage. La première lettre du remplissage, c'est quoi? Vav. Vav tout seul. Vav, valeur numérique combien? 6. Donc, le dimanche, je vais lire 6 versets. Et je dis, je pense par ces 6 versets qui correspondent au remplissage de la lettre Yud du nom Ben, de laisser la lumière de la Neshama, du supplément de Neshama de Shabbat, en moi. Shabbat, c'est de la lumière, messieurs. Bon, c'est Shabbat, ça part. On aimerait bien que ça reste un peu avec nous. Dimanche, ça reste. Comment? Quand tu lis 6 versets, la Neshama de Shabbat, la lumière, elle reste. Tu lis pas les 6 versets, elle part. Ciao. Lundi, tu dis, je vais lire maintenant 4 versets par rapport à la lettre Dalet, qui est la fin du remplissage de la lettre Yud du nom Ben. Je pense, par ces quatre versets, laisser le supplément de lumière de la Ruach de Shabbat. Neshama, c'est le plus haut niveau, on descend. Neshama, Ruach, Nefesh. De la Ruach de Shabbat. Mardi, tu passes à la deuxième lettre, c'est la lettre Hey. Comment on l'écrit? Hey, Hey. L'extérieur, c'est le Hey, le remplissage, c'est le Hey aussi. Combien ça vaut Hey? 5. Alors je dis, par la lecture maintenant de ces 5 versets, je pense qu'ils correspondent au remplissage du premier Hey du nom de Dieu, parce qu'il y en a deux, le premier et le dernier, du premier Hey du nom de Dieu, laissez en moi le supplément de lumière du Nefesh du Shabbat passé. Tu lis les 5 versets. Mercredi, tu reçois comment ça sera la lumière du Shabbat prochain. Mercredi, tu arrives, tu dis, alors, qu'est-ce qu'on a après? Hey, on a le Vav. Vav, comment on écrit Vav? Vav, Vav. La lettre extérieure, c'est quoi? Vav. Remplissage, c'est Vav. Correspond 6. Je pense maintenant, par la lecture de ces 6 versets, recevoir le supplément de lumière du Nefesh de Shabbat prochain. Jeudi, c'est le dernier Hey. Combien ça vaut le remplissage? 5. Hey, je pense, par la lecture de ces 5 versets, recevoir le supplément de Ruach du Shabbat prochain. La nuit de vendredi, du jeudi à vendredi, la nuit après minuit, ou avant le lever du soleil, si possible, ou si on n'a pas pu le faire le matin, tu lis une fois en hébreu les 26 versets qui viennent après les 26 premiers versets. Donc en tout, tu auras lu 52 versets. Le vendredi matin, tu lis toute la paracha deux fois en hébreu, une fois en araméen, j'aime écrire Targum. Et là, t'es top. À un point tel que celui qui fait cela le matin tôt, dès vendredi, une heure avant midi, ça veut dire la cinquième heure, il y a 12 heures dans la journée, dès la cinquième heure, la lumière de Shabbat commence à venir. On sait vendredi après-midi, on sentait que c'est une autre ambiance. Hein? Il y a quelque chose là. C'est la lumière de Shabbat qui commence à rentrer. Elle commence à rentrer que à partir d'environ 11 heures du matin, cinquième heure de la journée. Celui qui a fait Shlaim Ikra Hatargum, qui a lu toute la paracha deux fois en hébreu, une fois en araméen, dès qu'il a fait ça, il peut aller tromper au Mikvé, directement il reçoit cette lumière de Shabbat, avant tout le monde. Il la reçoit déjà avant. Pas besoin d'aller au Mikvé après l'après-midi, tu l'as trompé. Ça m'est arrivé une fois, j'ai réussi parce que je devais vous avoir réussi à faire. Parce que moi, pour arriver ici au Minyan, je vais finir le Minyan, lire toute la paracha, aller au Mikvé, d'accord. J'ai réussi à Ben Azmani, on a fait une fois à 8h, je ne sais pas, la veille de Kippour, je ne sais pas quoi. J'ai réussi une fois, sinon j'arrive pas à le faire. D'accord. Tu vas à 8h du matin, les gens se lèvent comme ça pour aller à la synagogue, toi tu es déjà après ta prière, Shlaim Hakadosh, tu es déjà dans l'ambiance de Shabbat, d'accord. Tu as gagné le gros lot. Bon, on a fait un cours de kabbaliste là. Mais chaque bon juif est censé faire ça un beau jour et arriver. Je vous donne des trucs maintenant pour vous brancher vraiment. Encore une fois, attention. Toutes ces choses-là passent après l'essentiel. Et l'essentiel dépend de comment tu te lèves. Tu lèves le matin, tu es en forme. Tu es bien parti. Tu t'es levé du pied droit, pas du pied gauche. Quand tu te lèves tard, tu as raté Kriat Shema. Tu arrives à la synagogue comme ça, sur les chapeaux de roue, comme je vois des gens ici le matin, ils veulent rentrer. Pourquoi ils veulent rentrer? Techniquement, en pensant rien, en lisant le plus rapidement possible, en disant avec les lèvres, tu ne peux pas arriver à la Amida, au Shemona Esrei, avec le public. Impossible. Je vois les gens, ils font déjà Baruch, ils sont en train de mettre leur tef. Tu dois lire normalement au moins 10 minutes les Korbanot. Après au moins 10 minutes, ce qui est zoomera plus. C'est 20 minutes pour arriver maintenant où ils en sont. Comment tu vas le faire? Alors tu es hyper rapide, et tu l'as fait en 10 minutes. Celui qui ne commence pas à l'amida avec le Shaliach Tzibour, tant que le Shaliach Tzibour n'a pas fait la première bracha, n'a pas encore dit Magan Avraham, tu es considéré comme tu es là avec Tzibour, tu pries avec lui en Tzibour, en public. Sinon, bah t'as raté. T'as raté. Maintenant, ne pas prier en Tzibour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mécatrégimes. Des forces négatives qui ne veulent pas que ta prière monte. Tes péchés, chacun a des péchés. On regarde, est-ce que tu dis ta prière avec intention? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as parlé comme bêtise cette nuit, hier, machin, etc., etc. Puis on dit, hey, oh Dieu, tu as vu cette prière-là? Chut, allez, zoup, refusé. Quand il y a 10 juifs qui prient, il y a la shrine, la présence divine qu'elle est là. Ça passe. Ça passe. Que tu sois méritant, pas méritant, kavana, pas kavana, ça passe. C'est vrai que si tu le fais mieux ta prière, elle passe beaucoup mieux. Mais au moins, il y a un petit truc qui passe. Donc c'est énorme. L'Alakha dit que si tu as un minyan dans les 18 minutes de chez toi à pied, tu dois y aller. Tu dois y aller. Ici à Ramot, tu as combien de minyanim ici à 18 minutes? Au moins 18. D'accord? Hein? Chova, bien sûr, Chova. Si tu peux, Chova.
Si je perds les sources, si jamais je ne vais pas faire.
T'as appelé Shachenra, mauvais voisin. Et tu rates. Tu rates. Stam, tu rates. Bêtement, tu rates. Tu rates ta prière, elle n'est pas reçue. C'est pas dommage. Tu as fait tout ça. Tu perds une heure de ton temps maintenant à faire une prière qui n'est pas reçue. À quoi ça sert? Tout ce qu'on fait, tous les psoukés des Zimra, tout c'est pour arriver à rien qu'à la Amida. Psoukés des Zimra. Zimra signifie quoi? Signifie chant, signifie aussi élaguer. Tu prends maintenant une hache, tu coupes. Toutes les ronces, toutes les mauvaises herbes qui vont empêcher ta prière de monter, on les coupe avec. Pourquoi on dit psoukés des Zimra? Ça empêche les forces négatives de prendre notre prière. Attends, si tu fais tout ça pour prouver que la prière soit attrapée au niveau de la prière, les forces négatives t'attendent après parce que tu l'as fait toute seule, à quoi ça servit? Ça sert à rien.
Quand on prie chez nous alors que son minyan, que le matin on n'a pas de minyan le matin chez nous, on prie tout seul à la maison.
T'as pas le choix.
Elle est pas reçue. Okay.
Elle est moins bien reçue, c'est clair. Regardez, Kekabana, qui es-tu, machin, tout ça, c'est beaucoup moins bien reçu. La Shrina n'est pas là, t'es tout seul, tu dois te battre pour franchir sept cieux. Là, c'est les cieux qui deviennent des... Dieu vient chez toi. Alors.
Ah, vous avez dit que Shacharit, c'est la journée et
ensuite
la nuit.
Oui. Mincha, c'est certain que ça a beaucoup, beaucoup d'importance aussi. C'est marqué que Elohan Avin n'a été exaucé qu'à Mincha. C'est certain que c'est un grand poids aussi. Mais dans cette mesure-là, de l'impact que ça a sur notre journée ou notre nuit, c'est que Shacharit et Arvit. Oui.
Si maintenant je suis en retard avec tout ça, j'arrive à parler aussi de mes filles et tout, en 10 minutes, dans ces 10 minutes, j'arrive à faire tout ce qui est des Gemara, Corbanot et tout ça. Et j'arrive à attraper l'Anda, ça veut dire, je commence l'Anda en tant que Shacharit, je dirais comme Avignon.
Ouais. Si tu fais ta Amida avec le Shacharit, tu commences avec, tu finis avec lui. Non, lui dit maintenant que je commence la Amida avec le Shacharit qui quoi? Qui fait sa Chazara. Si toi tu dis toute la Chazara, mot à mot avec Shahar Tzibour, mot à mot avec Shahar Tzibour, alors c'est considéré comme une filabé de Tzibour. Mais quelle prière tu as? Hein? Quelle tête est là ta prière? Et puis ta Chazara, elle est où? La Chazara, pourquoi on la fait à haute voix? Pourquoi on fait la Chazara? La Chazara est instituée pour les ignares. À l'époque, tu n'avais pas prié. Alors, Shahar Tzibour faisait sa prière à voix basse, après il faisait à voix haute, pour rendre quitte les ignares qui ne savaient pas lire. Aujourd'hui, qui ne sait pas lire? Que les ignares, d'accord, mais... mais normalement, aujourd'hui, c'est marqué dans la liste des poskim que tout le monde sait lire. Tout le monde sait faire... Aujourd'hui, tu es même en phonétique, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la Chazara? La raison profonde, que quand tu fais ta prière maintenant, toi, à voix basse, tu es dans un certain niveau mystique qui s'appelle Bina. Quand tu fais la Chazara, tu montes un niveau supplémentaire qui est Chochma. Il est impératif de faire sa prière à soi à voix basse. Pourquoi ce sont la voix haute? C'est marqué de nouveau. Les forces négatives attrapent nos prières, empêchent de la monter. On fait comment à voix basse? La Kabbalah dit il ne faut même pas que tu t'entendes toi chuchoter. Alors il a dit c'est très attention parce que c'est dur d'être certain qu'on a bien prononcé puisque tu ne t'entends même pas. Le pshat est sans simple, dit tout le contraire. Qu'il faut surtout au moins s'entendre chuchoter. Donc chacun fera comme il veut. C'est ou Kabbalah ou sans simple. Mais en tout cas, tu n'as pas le droit de dire ça à voix haute. Il n'y a pas de voix, il n'y a que du chuchotement. Chuchotement qui est audible ou non audible. Pourquoi? De peur que les forces négatives attrapent notre fila, l'empêchent de monter. La Chazara, elle est tellement haute. Elle est tellement haute que tu l'as fait à voix haute et personne qu'une force négative ne peut rien faire. Et toi, bêtement, tu es en train de la rater. Alors, le mieux, c'est de se lever à temps. Quoi, Minan Sfarad? Il n'y a aucune différence entre Minan Sfarad et Ashkenaz. Strictement, absolument aucune différence.
Dans l'esprit, c'est la même que vous allez faire à l'arrache avec ici, avec Jair Tibour dans notre adarache. Je suis bien, c'est un peu plus pire ce soir-là.
Le mieux, tu te lèves à temps, tu viens ici. Mais si tu es en retard, et ben voilà. Mitzvah, goret mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, ça met une autre mitzvah. Tu feras kashma comme il faut, tu feras la chazara, tu feras tout. Avera, goret avera, tu t'es levé tard, tu n'as pas fait les korbanot, tu as fait tout de travers, et tu es tué de travers. Toi, tu deviens un schnurk de travers, d'accord? Tu vas voir un rave qui a Ruach HaKodesh, il te scanne, il voit de travers. Chamichement. Une fois, il y a un élève qui est venu à Radin. Voilà le Hafetz Chaim. Un jeune homme de 16 ans. Il y a Radin, il est excédé du voyage. Et il a trouvé où dormir. Il s'est dit, bon, je vais me poser un peu, et puis je vais me lever pour faire vite après. Il va se reposer. Et puis après, il se réveille comme sa moitié endormie, qu'il doit faire vite. Ah, trop fatigué. Pof, ok, il s'est dit, allez, je dors. Et va faire vite. Le lendemain matin, il rentre chez le Hafetz Chaim. Très bien, il était très fatigué, était couché, dos au mur. Le type, il rentre, il dit, comment quelqu'un vient me voir qu'il n'a pas fait vite hier soir? On est en guerre, on est en guerre. Chacun qui fait une mitzvah, on gagne des points, sinon on perd la guerre. Et monsieur, nous sommes en guerre, on est en guerre. Il y a une guerre entre la Kedusha et la Touma. Qui sont les soldats de la Kedusha? Ben, c'est vous, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. On parle de la France, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Alors vous dire que vous êtes des petits soldats, vous êtes les plus grands soldats de France. Des Baal et Tchouva. Le Baal Tchouva, c'est marqué, le lieu où se trouve, aucun sadique parfait ne peut y accéder. Donc on est en guerre. Maintenant, toi, quand tu démissionnes, alors c'est vrai que tu es en guerre. La Touma, comment elle peut agir sur toi? Amener des filles ici, ils ne peuvent pas. Alors, eh bien, ils testent au lit. Ils t'amènent des filles en rêve, que je ne sais pas ce qu'ils font. Tout, mais il se bat. Maintenant, vas-y, on est en guerre. Et si on perd du terrain, alors la Touma prend du dessus. C'est quoi? Elle prend du dessus. Il me dit, c'est pas grave, la Touma. Non, parce qu'il y a des impacts. Ahmadinejad, sa force, il appuie d'où? De la Touma. C'est clair, c'est clair. Donc la bataille, elle est où? Elle est là. Au lever le matin, dans la prière, dans l'étude de Torah. Alors, la sachève qu'on soit des bons soldats. Baruch Adonai, l'homme d'Amen.